Alors ce salon qui avait réuni Swann et Odette devint un obstacle à leur rendez-vous. Elle ne lui disait plus comme au premier temps de leur amour « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurin. » Mais nous ne pourrons pas nous voir demain soir, il y a un souper chez les Verdurin. Ou bien les Verdurin devaient l'emmener à l'Opéra Comique, voir une nuit de Cléopâtre. Et Swann lisait dans les yeux d'Odette cet effroi qu'il lui demanda de n'y pas aller, que naguère il n'aurait pu se retenir de baiser au passage sur le visage de sa maîtresse, et qui maintenant l'exaspérait. « Ce n'est pas de la colère, pourtant, se disait-il à lui-même, que j'éprouve en voyant l'envie qu'elle a d'aller picorer dans cette musique stercoraire. C'est du chagrin. » Non pas certes pour moi, mais pour elle. Du chagrin de voir qu'après avoir vécu plus de 6 mois en contact quotidien avec moi, elle n'a pas su devenir assez une autre pour éliminer spontanément Victor Massé. Surtout pour ne pas être arrivé à comprendre qu'il y a des soirs où un être d'une essence un peu délicate doit savoir renoncer à un plaisir quand on le lui demande. Elle devrait savoir dire « je n'irai pas », ne fût-ce que par intelligence, puisque c'est sur sa réponse qu'on classera une fois pour toutes sa qualité d'âme. Et s'étant persuadé à lui-même que c'était seulement en effet pour pouvoir porter un jugement plus favorable sur la valeur spirituelle d'Odette qu'il désirait que ce soir-là elle restât avec lui au lieu d'aller à l'Opéra Comique, il lui tenait le même raisonnement au même degré d'insincérité qu'à soi-même, et même à un degré de plus, car alors il obéissait aussi au désir de la prendre par l'amour-propre. « Je te jure, lui disait-il, quelques instants avant qu'elle partît pour le théâtre, qu'en te demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si j'étais égoïste, seraient pour que tu me refuses, car j'ai 1000 choses à faire ce soir, » et je me trouverai moi-même pris au piège et bien ennuyé si, contre toute attente, tu me réponds que tu n'iras pas. Mais mes occupations, mes plaisirs ne sont pas tout. Je dois penser à toi. Il peut venir un jour où, me voyant à jamais détaché de toi, tu auras le droit de me reprocher de ne pas t'avoir averti dans les minutes décisives, où je sentais que j'allais porter sur toi un de ces jugements sévères auquel l'amour ne résiste pas longtemps. Vois-tu, une nuit de Cléopâtre, quel titre, n'est rien dans la circonstance. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment tu es cet être qui est au dernier rang de l'esprit et même du charme, l'être méprisable qui n'est pas capable de renoncer à un plaisir. Alors si tu es cela, comment pourrait-on t'aimer, car tu n'es même pas une personne, une créature définie, imparfaite, mais du moins perfectible. Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre, un poisson sans mémoire et sans réflexion qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage, qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Comprends-tu que ta réponse, je ne dis pas, aura pour effet que je cesserai de t'aimer immédiatement, bien entendu, mais te rendra moins séduisante à mes yeux quand je comprendrai que tu n'es pas une personne, que tu es au-dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus d'aucune. Évidemment, j'aurais mieux aimé te demander, comme une chose sans importance, de renoncer à une nuit de Cléopâtre, puisque tu m'obliges à me souiller les lèvres de ce nom abject, dans l'espoir que tu y irais cependant. Mais décidé à tenir un tel compte, à tirer de telles conséquences de ta réponse, j'ai trouvé plus loyal de t'en prévenir. Odette, depuis un moment, donnait des signes d'émotion et d'incertitude. À défaut du sens de ce discours, elle comprenait qu'il pouvait rentrer dans le genre commun des laïus et scènes de reproche ou de supplication dont l'habitude qu'elle avait des hommes lui permettait, sans s'attacher aux détails des mots, de conclure qu'il ne les prononcerait pas s'ils n'étaient pas amoureux. Que du moment qu'ils étaient amoureux, il était inutile de leur obéir, qu'ils ne le seraient que plus après. Aussi aurait-elle écouté Swann avec le plus grand calme si elle n'avait vu que l'heure passée, et que pour peu qu'il parlât encore quelque temps, elle allait, comme elle le lui dit avec un sourire tendre, obstiné et confus, finir par manquer l'ouverture. D'autrefois, il lui disait que ce qui plus que tout ferait qu'il cesserait de l'aimer, c'est qu'elle ne voulut pas renoncer à mentir. Même au simple point de vue de la coquetterie, lui disait-il, ne comprends-tu donc pas combien tu perds de ta séduction en t'abaissant à mentir? Par un aveu, combien de fautes tu pourrais racheter? Vraiment, tu es bien moins intelligente que je ne le croyais. Mais c'est en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les raisons qu'elle avait de ne pas mentir. Elles auraient pu ruiner chez Odette un système général du mensonge. Mais Odette n'en possédait pas. Elle se contentait seulement, dans chaque cas où elle voulait que Swann ignorât quelque chose qu'elle avait fait, de ne pas le lui dire. Ainsi, le mensonge était pour elle un expédient d'ordre particulier, et ce qui seul pouvait décider si elle devait s'en servir ou avouer la vérité, c'était une raison d'ordre particulier aussi, la chance plus ou moins grande qu'il y avait pour que Swann pût découvrir qu'elle n'avait pas dit la vérité. Physiquement, elle traversait une mauvaise phase. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu, et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis il regardait des photographies d'il y avait 2 ans, il se rappelait comme elle avait été délicieuse, et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Quand les Verdurin l'emmenaient à Saint-Germain, à Chatou, à Melun, souvent, si c'était dans la belle saison, il proposait sur place de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Madame Verdurin cherchait à apaiser les scrupules du pianiste dont la tante était restée à Paris. Elle sera enchantée d'être débarrassée de vous pour un jour. Et comment s'inquiéterait-elle? Elle vous sait avec nous. D'ailleurs, je prends tout sous mon bonnet. Mais si elle n'y réussissait pas, Monsieur Verdurin partait en campagne, trouvait un bureau de télégraphe ou un messager, et s'informait de ceux des fidèles qui avaient quelqu'un à faire prévenir. Mais Odette le remerciait et disait qu'elle n'avait de dépêche à faire pour personne. Car elle avait dit à Swann une fois pour toutes, en lui en envoyant une aux yeux de tous, elle se compromettrait. Parfois c'était pour plusieurs jours qu'elle s'absentait. Les Verdurin l'emmenaient voir les tombeaux de Dreux, ou à Compiègne, admiraient sur le conseil du peintre des couchers de soleil en forêt, et ont poussé jusqu'au château de Pierrefonds. Pensez qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi, qui ai étudié l'architecture pendant 10 ans, et qui suis tout le temps supplié de mener à Beauvais ou à Saint-Loup-de-Nos des gens de la plus haute valeur, et ne le ferai que pour elle. Et qu'à la place, elle va, avec les dernières des brutes, s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et devant celles de Viollet-le-Duc. Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour cela, et que même sans flair particulièrement fin, on ne choisit pas d'aller villégiaturer dans des latrines pour être plus à portée de respirer des excréments. Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, hélas sans lui permettre d'y aller, comme par hasard de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. le moyen, presque davantage, l'autorisation, car enfin, l'indicateur et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour des chiens. Si on faisait savoir au public par voie d'imprimé qu'à 8 heures du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10 heures, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite, pour lequel la permission de dette était superflue. Et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour, en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. En somme, elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or justement, il sentait qu'il en avait envie, et que s'il n'avait pas connu Odette, certainement, il y serait allé. Il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée plus précise des travaux de restauration de Viollet-le-Duc. Et par le temps qu'il faisait, il éprouvait l'impérieux désir d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Ce n'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendît le seul endroit qu'il tentait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y allait, malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même. Mais alors que si elle eût retrouvé à Pierrefonds quelqu'un différent, elle lui eût dit joyeusement « Tiens, vous ici ?» et lui aurait demandé d'aller la voir à l'hôtel où elle était descendue avec les Verdurin. Au contraire, si elle l'y rencontrait, lui Swann, elle serait froissée, elle se dirait qu'elle était suivie, elle l'aimerait moins. Peut-être se détournerait-elle avec colère en l'apercevant. « Alors je n'ai plus le droit de voyager, » lui dirait-elle au retour. Tandis qu'en somme, c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. Il avait eu un moment l'idée pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fût pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Celui-ci, à qui il avait fait part de son projet sans lui en dire le motif, ne se sentait pas de joie et s'émerveillait que Swann, pour la première fois depuis 15 ans, consentît enfin à venir voir sa propriété, et puisqu'il ne voulait pas s'y arrêter, lui avait-il dit, lui promit du moins de faire ensemble des promenades et des excursions pendant plusieurs jours. Swann s'imaginait déjà là-bas avec M. de Forestel. Même avant d'y voir Odette, même s'il ne réussissait pas à l'y voir, quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre, où, ne sachant pas l'endroit exact à tel moment de sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenue beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir, dans toutes les rues de la ville qui lui semblaient romanesques, sur chaque route de la forêt, rosée par un couchant profond et tendre, asile innombrable et alternatif, où venait simultanément se réfugier dans l'incertaine ubiquité de ses espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. Surtout, dirait-il à M. de Forestel, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et les Verdurin. Je viens d'apprendre qu'ils sont justement aujourd'hui à Pierrefonds. On a assez le temps de se voir à Paris, ce ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. Et son ami ne comprendrait pas pourquoi, une fois là-bas, il changerait 20 fois de projet, inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Compiègne, sans se décider à s'asseoir, dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace de Verdurin, ayant l'air de rechercher ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste, le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé, car s'il avait rencontré le petit groupe, il s'en serait écarté avec affectation, content d'avoir vu Odette et qu'elle l'eût vue, surtout qu'elle l'eût vue ne se souciant pas d'elle. Mais non, elle devinerait bien que c'était pour elle qu'il était là. Et quand Monsieur de Forestel venait le chercher pour partir, il lui disait « Hélas non, je ne peux pas aller aujourd'hui à Pierrefonds, Odette y est justement. » Et Swann était heureux malgré tout de sentir que si seul de tous les mortels il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefonds, C'était parce qu'il était en effet pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant, et que cette restriction apportée pour lui au droit universel de libre circulation n'était qu'une des formes de cet esclavage, de cet amour qui lui était si cher. Décidément, il valait mieux ne pas risquer de se brouiller avec elle, patienter, attendre son retour. Il passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du Tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait pu prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas. Pour le cas où, revenue par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Justement, il entendait sonner à la porte cochère. Il lui semblait qu'on tardait à ouvrir, il voulait éveiller le concierge, se mettait à la fenêtre pour appeler Odette si c'était elle. Car malgré les recommandations qu'il était descendu faire plus de 10 fois lui-même, on était capable de lui dire qu'il n'était pas là. C'était un domestique qui rentrait. Il remarquait le vol incessant des voitures qui passaient, auxquelles il n'avait jamais fait attention autrefois. Il écoutait chacune venir au loin, s'approcher, dépasser sa porte sans s'être arrêté, et porter plus loin un message qui n'était pas pour lui. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car les Verdurin ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée seule au théâtre, et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui. Et de tels moments où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swann étaient plus utiles à Odette, servaient mieux à lui attacher Swann que toute sa coquetterie. Car ainsi Swann vivait dans cette agitation douloureuse qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour, le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurin et l'avait cherchée toute la soirée. Et il n'avait pas, comme j'eus à Combray dans mon enfance, des journées heureuses pendant lesquelles s'oublient les souffrances qui renaîtront le soir. Les journées Swann les passait sans Odette, et par moments il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors il s'indignait contre tous les passants, comme contre autant de voleurs, mais leur visage collectif et informe, échappant à son imagination, ne nourrissait pas sa jalousie. Il fatiguait la pensée de Swann, lequel, se passant la main sur les yeux, s'écriait « À la grâce de Dieu !» comme ceux qui, après s'être acharnés à éteindre le problème de la réalité du monde extérieur ou de l'immortalité de l'âme, accordent la détente d'un acte de foi à leur cerveau lassé. Mais toujours la pensée de l'absente était indissolublement mêlée aux actes les plus simples de la vie de Swann. Déjeuner, recevoir son courrier, sortir, se coucher, par la tristesse même qu'il avait à les accomplir sans elle, comme ces initiales de Philibert le Beau que dans l'église de Brou, à cause du regret qu'elle avait de lui, Marguerite d'Autriche entrelaça partout aux siennes. Certains jours, au lieu de rester chez lui, il allait prendre son déjeuner dans un restaurant à ses voisins, dont il avait apprécié autrefois la bonne cuisine, et où maintenant il n'allait plus que pour une de ces raisons à la fois mystiques et saugrenues qu'on appelle romanesques, c'est que ce restaurant, lequel existe encore, portait le même nom que la rue habitée par Odette, la Pérouse. Quelquefois, quand elle avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris, et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ces paroles étaient mensongères, du moins pour Odette elles étaient mensongères, inconsistantes, n'ayant pas, comme si elles avaient été vraies, un point d'appui dans le souvenir de son arrivée à la gare, même elle était empêchée de se les représenter au moment où elle les prononçait, par l'image contradictoire de ce qu'elle avait fait de tout différent, au moment où elle prétendait être descendue du train. Mais dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles, qui ne rencontraient aucun obstacle, venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait de jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom, c'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois à une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu qui ne le laisserait respirer que quand il serait parti en voyage, et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette mort depuis 20 ans. Bien qu'elle ne lui permît pas en général de la rejoindre dans des lieux publics, disant que cela ferait jaser, il arrivait que dans une soirée où il était invité comme elle, chez Forcheville, chez le peintre ou à un bal de charité dans un ministère, il se trouva en même temps qu'elle. Il la voyait, mais n'osait pas rester de peur de l'irriter en ayant l'air d'épier les plaisirs qu'elle prenait avec d'autres, et qui, tandis qu'il rentrait solitaire, qu'il allait se coucher anxieux, comme je devais l'être moi-même quelques années plus tard, les soirs où il viendrait dîner à la maison, à Combray. Lui semblait illimité parce qu'il n'en avait pas vu la fin. Et une fois ou deux, il connut par de tels soirs de ses joies qu'on serait tenté, si elle ne subissait avec tant de violence le choc en retour de l'inquiétude brusquement arrêtée, d'appeler des joies calmes, parce qu'elles consistent en un apaisement. Il était allé passer un instant à un raout chez le peintre et s'apprêtait à le quitter. Il y laissait Odette, muée en une brillante étrangère au milieu d'hommes, à qui ses regards et sa gaieté, qui n'étaient pas pour lui, semblaient parler de quelque volupté, qui serait goûtée là ou ailleurs, peut-être au bal des incohérents, où il tremblait qu'elle n'allât ensuite, et qui causait à Swann plus de jalousie que l'union charnelle même, parce qu'il l'imaginait plus difficilement. Il était déjà prêt à passer la porte de l'atelier quand il s'entendait rappeler par ces mots, qui, en retranchant de la fête cette fin qui l'épouvantait, la lui rendait rétrospectivement innocente, faisait du retour d'Odette une chose non plus inconcevable et terrible, mais douce et connue, et qui tiendrait à côté de lui, pareil à un peu de sa vie de tous les jours dans sa voiture, et dépouiller Odette elle-même de son apparence trop brillante et gaie, montrer que ce n'était qu'un déguisement qu'elle avait revêtu un moment, pour lui-même, non en vue de mystérieux plaisirs, et duquel elle était déjà lasse. Par ces mots qu'Odette lui jetait comme il était déjà sur le seuil, « Vous ne voudriez pas m'attendre 5 minutes, je vais partir. Nous reviendrions ensemble. Vous me ramèneriez chez moi. » Il est vrai qu'un jour, Forcheville avait demandé à être ramené en même temps, mais comme arrivé devant la porte d'Odette, il avait sollicité la permission d'entrer aussi, Odette lui avait répondu en montrant Swann, « Ah, cela dépend de ce monsieur-là, demandez-lui. Enfin, entrez un moment si vous voulez, mais pas longtemps, parce que je vous préviens qu'il aime causer tranquillement avec moi et qu'il n'aime pas beaucoup qu'il y ait des visites quand il vient. Ah, si vous connaissiez cet être-là autant que je le connais. N'est-ce pas, my love? Il n'y a que moi qui vous connaisse bien. » Et Swann était peut-être encore plus touché de l'avoir ainsi lui adressé en présence de Forcheville, non seulement ses paroles de tendresse, de prédilection, mais encore certaines critiques, comme « Je suis sûr que vous n'avez pas encore répondu à vos amis pour votre dîner de dimanche. N'y allez pas si vous ne voulez pas, mais soyez au moins poli. » Ou « Avez-vous laissé seulement ici votre essai sur Vermeer pour pouvoir l'avancer un peu demain ? Quel paresseux ! Je vous ferai travailler, moi. » Qui prouvait qu'Odette se tenait au courant de ses invitations dans le monde et de ses études d'art, qu'ils avaient bien une vie à eux deux. Et en disant cela, elle lui adressait un sourire au fond duquel il la sentait tout à lui. Alors, à ces moments-là, pendant qu'elle leur faisait de l'orangeade, tout d'un coup, comme quand un réflecteur mal réglé d'abord promène autour d'un objet sur la muraille de grandes ombres fantastiques qui viennent ensuite se replier et s'anéantir en lui, toutes les idées terribles et mouvantes qu'il se faisait d'Odette s'évanouissaient, rejoignaient le corps charmant que Swann avait devant lui. Il avait le brusque soupçon que cette heure passée chez Odette sous la lampe n'était peut-être pas une heure factice à son usage à lui, destinée à masquer cette chose effrayante et délicieuse à laquelle il pensait sans cesse, sans pouvoir bien se la représenter, une heure de la vraie vie d'Odette, de la vie d'Odette quand il n'était pas là, avec des accessoires de théâtre et des fruits de carton, mais était peut-être une heure pour de bon de la vie d'Odette, que s'il n'avait pas été là, elle eût avancé à Forcheville, le même fauteuil, et lui eût versé, non un breuvage inconnu, mais précisément cette orangeade. Que le monde habité par Odette n'était pas cet autre monde effroyable et surnaturel où il passait son temps à la situer, et qui n'existait peut-être que dans son imagination. Mais l'univers réel, ne dégageant aucune tristesse spéciale, comprenant cette table où il allait pouvoir écrire, et cette boisson à laquelle il lui serait permis de goûter. Tous ces objets qu'il contemplait avec autant de curiosité et d'admiration que de gratitude, car si en absorbant ses rêves, il l'en avait délivré, eux, en revanche, s'en étaient enrichis. Ils lui en montraient la réalisation palpable, et ils intéressaient son esprit. Il prenait du relief devant ses regards, en même temps qu'il tranquillisait son cœur. Ah, si le destin avait permis qu'il pût n'avoir qu'une seule demeure avec Odette, et que chez elle, il fût chez lui. Si en demandant au domestique ce qu'il y avait à déjeuner c'eût été le menu d'Odette qu'il avait appris en réponse, si quand Odette voulait aller le matin se promener avenue du Bois de Boulogne, son devoir de bon mari l'avait obligé, n'eût-il pas envie de sortir, à l'accompagner, portant son manteau quand elle avait trop chaud. Et le soir, après le dîner, si elle avait envie de rester chez elle en déshabillé, s'il avait été forcé de rester là, près d'elle, à faire ce qu'elle voudrait. Alors combien tous les riens de la vie de Swann qui lui semblaient si tristes, au contraire parce qu'ils auraient en même temps fait partie de la vie d'Odette, auraient pris, même les plus familiers, et comme cette lampe, cette orangeade, ce fauteuil qui contenait tant de rêves, qui matérialisait tant de désirs, une sorte de douceur surabondante et de densité mystérieuse. Pourtant, il se doutait bien que ce qu'il regrettait ainsi, c'était un calme, une paix qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors sans doute les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants en eux-mêmes, comme il avait déjà eu plusieurs fois le soupçon qu'ils étaient. Par exemple, le jour où il avait lu à travers l'enveloppe la lettre adressée à Forcheville. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais du sein de son état morbide, à vrai dire, Il redoutait à l'égal de la mort une telle guérison, qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement. Après ces tranquilles soirées, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux, parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude, ou le désir de les voir se renouveler, ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais à d'autres moments, sa douleur le reprenait. Il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville, et que quand tous deux l'avaient vue, du fond du landau des Verdurins, au bois, la veille de la fête de château où il n'avait pas été invité, la priait vainement, avec cet air de désespoir qu'avait remarqué jusqu'à son cocher de revenir avec lui, puis s'en retourner de son côté, seul et vaincu, elle avait dû avoir pour le désigner à Forcheville et lui dire « Ce qu'il rage !» Les mêmes regards brillants, malicieux, abaissés et sournois, que le jour où celui-ci avait chassé sa niette de chez les Verdurins. Alors Swann la détestait. « Mais aussi je suis trop bête, se disait-il, je paie avec mon argent le plaisir des autres. Elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout. En tout cas, renonçons provisoirement aux gentillesses supplémentaires. » Pensait que pas plus tard qu'hier, comme elle disait avoir envie d'assister à la saison de Bayreuth, j'ai eu la bêtise de lui proposer de louer un des jolis châteaux du roi de Bavière pour nous deux dans les environs. Et d'ailleurs, elle n'a pas paru plus ravie que cela. Elle n'a encore dit ni oui ni non. Espérons qu'elle refusera, grand Dieu. Entendre du Wagner pendant 15 jours avec elle qui s'en soucie comme un poisson d'une pomme, ce serait gai. Et sa haine, tout comme son amour, ayant besoin de se manifester et d'agir, il se plaisait à pousser de plus en plus loin ses imaginations mauvaises, parce que grâce aux perfidies qu'il prêtait à Odette, il la détestait davantage et pourrait, si ce qu'il cherchait à se figurer, elle se trouvait être vraie, avoir une occasion de la punir et d'assouvir sur elle sa rage grandissante. Il alla ainsi jusqu'à supposer qu'il allait recevoir une lettre d'elle où elle lui demanderait de l'argent pour louer ce château près de Bayreuth, mais en le prévenant qu'il n'y pourrait pas venir, parce qu'elle avait promis à Forcheville et aux Verdurins de les inviter. Ah ! Comme il eût aimé qu'elle pût avoir cette audace ! Quelle joie il aurait à refuser, à rédiger la réponse vengeresse dont il se complaisait à choisir, à énoncer tout haut les termes, comme s'il avait reçu la lettre en réalité. Or, c'est ce qui arriva le lendemain même. Elle lui écrivit que les Verdurins et leurs amis avaient manifesté le désir d'assister à ces représentations de Wagner, et que, s'il voulait bien lui envoyer cet argent, elle aurait enfin, après avoir été si souvent reçue chez eux, le plaisir de les inviter à son tour. De lui, elle ne disait pas un mot, il était sous-entendu que leur présence excluait la sienne. Alors cette terrible réponse dont il avait arrêté chaque mot la veille, sans oser espérer qu'elle pourrait servir jamais, il avait la joie de la lui faire porter. Hélas, il sentait bien qu'avec l'argent qu'elle avait, ou qu'elle trouverait facilement, elle pourrait tout de même louer à Bayreuth. Puisqu'elle en avait envie, elle qui n'était pas capable de faire de différence entre Bac et Clapisson. Mais elle y vivrait malgré tout plus chichement, pas moyen, comme s'il lui eût envoyé cette fois quelques billets de 1000 francs, d'organiser chaque soir dans un château de ses soupers fins après lesquels elle se serait peut-être passé la fantaisie, qu'il était possible qu'elle n'eût jamais eu encore, de tomber dans les bras de Forcheville. Et puis du moins, ce voyage détesté, ce n'était pas lui, Swann, qui le paierait. Ah, s'il avait pu l'empêcher, si elle avait pu se fouler le pied avant de partir, si le cocher de la voiture qui l'emmènerait à la gare avait consenti à n'importe quel prix à la conduire dans un lieu où elle fut quelque temps séquestrée. Cette femme perfide, aux yeux émaillés par un sourire de complicité adressé à Forcheville, Codette était pour Swann depuis 48 heures. Mais elle ne l'était jamais pour très longtemps. Au bout de quelques jours, le regard luisant et fourbe perdait de son éclat et de sa duplicité. Cette image d'une Odette exécrée disant à Forcheville « Ce qu'il rage !» commençait à pâlir, à s'effacer. Alors progressivement reparaissait et s'élevait en brillant doucement le visage de l'autre Odette, de celle qui adressait aussi un sourire à Forcheville, mais un sourire où il n'y avait pour Swann que de la tendresse, quand elle disait « Ne restez pas longtemps, car ce monsieur-là n'aime pas beaucoup que j'aie des visites quand il a envie d'être auprès de moi. Ah, si vous connaissiez cet être autant que je le connais !» Ce même sourire qu'elle avait pour remercier Swann de quelques traits de sa délicatesse qu'elle prisait si fort, de quelques conseils qu'elle lui avait donnés dans une de ces circonstances graves où elle n'avait confiance qu'en lui. Alors à cette Odette-là, il se demandait comment il avait pu écrire cette lettre outrageante, dont sans doute jusqu'ici elle ne l'eût pas cru capable, et qui avait dû le faire descendre du rang élevé unique que par sa bonté, sa loyauté, il avait conquis dans son estime. Il allait lui devenir moins cher, car c'était pour ces qualités-là qu'elle ne trouvait ni à Forcheville ni à aucun autre qu'elle l'aimait. C'était à cause d'elle qu'Odette lui témoignait si souvent une gentillesse qu'il comptait pour rien au moment où il était jaloux, parce qu'elle n'était pas une marque de désir, et prouvait même plutôt de l'affection que de l'amour, mais dont il recommençait à sentir l'importance au fur et à mesure que la détente spontanée de ses soupçons, souvent accentuée par la distraction que lui apportait une lecture d'art ou la conversation d'un ami, rendait sa passion moins exigeante de réciprocité. Maintenant qu'après cette oscillation, Odette était naturellement revenue à la place d'où la jalousie de Swann l'avait un moment écartée, dans l'angle où il la trouvait charmante, il se la figurait pleine de tendresse, avec un regard de consentement, si jolie ainsi qu'il ne pouvait s'empêcher d'avancer les lèvres vers elle comme si elle avait été là, et qu'il eût pu l'embrasser. Et il lui gardait de ce regard enchanteur et bon autant de reconnaissance que si elle venait de la voir réellement, et si cela n'eût pas été seulement son imagination qui venait de le peindre pour donner satisfaction à son désir. Comme il avait dû lui faire de la peine, certes il trouvait des raisons valables à son ressentiment contre elle, mais elle n'aurait pas suffi à le lui faire éprouver s'il ne l'avait pas autant aimée. N'avait-il pas eu des griefs aussi graves contre d'autres femmes, auxquelles il eût néanmoins volontiers rendu service aujourd'hui, étant contre elles sans colère parce qu'il ne les aimait plus? S'il devait jamais un jour se trouver dans le même état d'indifférence vis-à-vis d'Odette, il comprendrait que c'était sa jalousie seule qui lui avait fait trouver quelque chose d'atroce, d'impardonnable, à ce désir au fond si naturel, provenant d'un peu d'enfantillage et aussi d'une certaine délicatesse d'âme, de pouvoir à son tour, puisqu'une occasion s'en présentait, rendre des politesses au ver du Rhin, jouer à la maîtresse de maison. Il revenait à ce point de vue, opposé à celui de son amour et de sa jalousie, auquel il se plaçait quelquefois par une sorte d'équité intellectuelle, et pour faire la part des diverses probabilités, d'où il essayait de juger Odette comme s'il ne l'avait pas aimée, comme si elle était pour lui une femme comme les autres, comme si la vie d'Odette n'avait pas été, dès qu'il n'était plus là, différente, tramée en cachette de lui, ourdie contre lui. Pourquoi croire qu'elle goûterait là-bas avec Forcheville ou avec d'autres des plaisirs enivrants qu'elle n'avait pas connus avec lui, et que seule sa jalousie forgeait de toutes pièces? À Bayreuth comme à Paris, s'il arrivait que Forcheville pensât à lui, ce n'eût pu être que comme à quelqu'un qui comptait beaucoup dans la vie d'Odette. à qui il était obligé de céder la place quand ils se rencontraient chez elle. Si Forcheville et elle triomphaient d'être là-bas malgré lui, c'est lui qui l'aurait voulu en cherchant inutilement à l'empêcher d'y aller, tandis que s'il avait approuvé son projet, d'ailleurs défendable, elle aurait eu l'air d'être là-bas d'après son avis, elle s'y serait sentie envoyée, logée par lui. Et le plaisir qu'elle aurait éprouvé à recevoir ces gens qui l'avaient tant reçu, c'est à Swann qu'elle en aurait su gré. Et au lieu qu'elle allait partir brouiller avec lui sans l'avoir revu, s'il lui envoyait cet argent, s'il l'encourageait à ce voyage et s'occupait de le lui rendre agréable, elle allait accourir, heureuse, reconnaissante, et il aurait cette joie de l'avoir qu'il n'avait pas goûté depuis près d'une semaine, et que rien ne pouvait lui remplacer. Car sitôt que Swann pouvait se la représenter sans horreur, qu'il revoyait de la bonté dans son sourire et que le désir de l'enlever à tout autre n'était plus ajouté par la jalousie à son amour, cet amour redevenait surtout un goût pour les sensations que lui donnait la personne d'Odette, pour le plaisir qu'il avait à admirer comme un spectacle ou à interroger comme un phénomène, le lever d'un de ses regards, la formation d'un de ses sourires, l'émission d'une intonation de sa voix. Et ce plaisir différent de tous les autres avait fini par créer en lui un besoin d'elle, et qu'elle seule pouvait assouvir par sa présence ou ses lettres, presque aussi désintéressé, presque aussi artistique, aussi pervers, qu'un autre besoin qui caractérisait cette période nouvelle de la vie de Swann, où à la sécheresse, à la dépression des années antérieures avait succédé une sorte de trop-plein spirituel, sans qu'il sût davantage à quoi il devait cet enrichissement inespéré de sa vie antérieure, qu'une personne de santé délicate qui, à partir d'un certain moment, se fortifie, engraisse et semble pendant quelque temps s'acheminer vers une complète guérison. Cet autre besoin, qui se développait aussi en dehors du monde réel, c'était celui d'entendre, de connaître de la musique. Ainsi, par le chimisme même de son mal, après qu'il avait fait de la jalousie avec son amour, il recommençait à fabriquer de la tendresse, de la pitié pour Odette. Elle était redevenue l'Odette charmante et bonne. Il avait des remords d'avoir été dur pour elle. Il voulait qu'elle vînt près de lui, et auparavant, il voulait lui avoir procuré quelque plaisir, pour voir la reconnaissance pétrir son visage et modeler son sourire. Aussi Odette, sûre de le voir venir après quelques jours, aussi tendre et soumis qu'avant, lui demandait une réconciliation. Prenait-elle l'habitude de ne plus craindre de lui déplaire et même de l'irriter? Et lui refusait-elle, quand cela lui était commode, les faveurs auxquelles il tenait le plus? Peut-être ne savait-elle pas combien il avait été sincère vis-à-vis d'elle pendant la brouille, quand il lui avait dit qu'il ne lui enverrait pas d'argent et chercherait à lui faire du mal. Peut-être ne savait-elle pas davantage combien il l'était, vis-à-vis sinon d'elle du moins de lui-même, en d'autres cas ou dans l'intérêt de l'avenir de leur liaison, pour montrer à Odette qu'il était capable de se passer d'elle, qu'une rupture restait toujours possible, il décidait de rester quelque temps sans aller chez elle. Parfois c'était après quelques jours où elle ne lui avait pas causé de soucis nouveaux, et comme des visites prochaines qu'il lui ferait, il savait qu'il ne pouvait tirer nulle bien grande joie, mais plus probablement quelque chagrin qui mettrait fin au calme où il se trouvait, il lui écrivait qu'étant très occupé, il ne pourrait la voir aucun des jours qu'il lui avait dit. Or, une lettre d'elle, se croisant avec la sienne, le priait précisément de déplacer un rendez-vous. Il se demandait pourquoi. Ses soupçons, sa douleur le reprenaient. Il ne pouvait plus tenir, dans l'état nouveau d'agitation où il se trouvait, l'engagement qu'il avait pris dans l'état antérieur de calme relatif. Il courait chez elle et exigeait de la voir tous les jours suivants. Et même si elle ne lui avait pas écrit la première, si elle répondait seulement en y acquiesçant à sa demande d'une courte séparation, cela suffisait pour qu'il ne pût plus rester sans la voir. Car contrairement au calcul de Swann, le consentement d'Odette avait tout changé en lui. Comme tous ceux qui possèdent une chose pour savoir ce qui arriverait s'ils cessaient un moment de la posséder, il avait ôté cette chose de son esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or l'absence d'une chose, ce n'est pas que cela, ce n'est pas un simple manque partiel, c'est un bouleversement de tout le reste, c'est un état nouveau qu'on ne peut prévoir dans l'ancien. Mais d'autres fois, au contraire, Odette était sur le point de partir en voyage, c'était après quelques petites querelles dont il choisissait le prétexte qu'il se résolvait à ne pas lui écrire, et à ne pas la revoir avant son retour, donnant ainsi les apparences et demandant le bénéfice d'une grande brouille, qu'elle croirait peut-être définitive, à une séparation dont la plus longue part était inévitable du fait du voyage, et qu'il faisait commencer seulement un peu plus tôt. Déjà il se figurait Odette inquiète, affligée de n'avoir reçu ni visite ni lettre, et cette image, en calmant sa jalousie, lui rendait facile de se déshabituer de la voir. Sans doute par moments, tout au bout de son esprit, où sa résolution la refoulait grâce à toute la longueur interposée des 3 semaines de séparation acceptée, c'était avec plaisir qu'il considérait l'idée qu'il reverrait Odette à son retour, mais c'était aussi avec si peu d'impatience qu'il commençait à se demander s'il ne doublerait pas volontairement la durée d'une abstinence si facile. Elle ne datait encore que de 3 jours, temps beaucoup moins long que celui qu'il avait souvent passé en ne voyant pas Odette, et sans la voir comme maintenant, prémédité. Et pourtant, voici qu'une légère contrariété ou un malaise physique, en l'incitant à considérer le moment présent comme un moment exceptionnel, en dehors de la règle, où la sagesse même admettrait d'accueillir l'apaisement qu'apporte un plaisir, et de donner congé jusqu'à la reprise utile de l'effort à la volonté, suspendait l'action de celle-ci qui cessait d'exercer sa compression, ou moins que cela, le souvenir d'un renseignement qu'il avait oublié de demander à Odette si elle avait décidé la couleur dont elle voulait faire repeindre sa voiture, ou pour une certaine valeur de bourse, si c'était des actions ordinaires ou privilégiées qu'elle désirait acquérir. C'était très joli de lui montrer qu'il pouvait rester sans la voir, mais si après ça la peinture était à refaire, ou si les actions ne donnaient pas de dividendes, il serait bien avancé. Voici que comme un caoutchouc tendu qu'on lâche, ou comme l'air dans une machine pneumatique qu'on en trouve, l'idée de la revoir, des lointains où elle était maintenue, revenait d'un bond dans le champ du présent et des possibilités immédiates. Elle y revenait sans plus trouver de résistance, et d'ailleurs si irrésistible que Swann avait eu bien moins de peine à sentir s'approcher un à un les 15 jours qu'il devait rester séparé d'Odette, qu'il n'en avait à attendre les 10 minutes que son cocher mettait pour atteler la voiture qui allait l'emmener chez elle, et qu'il passait dans des transports d'impatience et de joie où il ressaisissait 1000 fois pour lui prodiguer sa tendresse, cette idée de la retrouver qui, par un retour si brusque, au moment où il la croyait si loin, était de nouveau près de lui dans sa plus proche conscience. C'est qu'elle ne trouvait plus, pour lui faire obstacle, le désir de rechercher, sans plus tarder à lui résister, qui n'existait plus chez Swann, depuis que s'étant prouvé à lui-même, il le croyait du moins, qu'il en était si aisément capable, il ne voyait plus aucun inconvénient à ajourner un essai de séparation qu'il était certain maintenant de mettre à exécution dès qu'il le voudrait. C'est aussi que cette idée de la revoir revenait parée pour lui d'une nouveauté, d'une séduction douée d'une virulence que l'habitude avait émoussée, mais qui s'était retrempée dans cette privation non de 3 jours mais de 15, car la durée d'un renoncement doit se calculer par anticipation sur le terme assigné. Et ce qui jusque-là eût été un plaisir attendu qu'on sacrifie aisément, avait fait un bonheur inespéré contre lequel on est sans force. C'est enfin qu'elle y revenait embellie par l'ignorance où était Swann de ce qu'Odette avait pu penser, faire peut-être, en voyant qu'il ne lui avait pas donné signe de vie, si bien que ce qu'il allait trouver, c'était la révélation passionnante d'une Odette presque inconnue. Mais elle, de même qu'elle avait cru que son refus d'argent n'était qu'une feinte, ne voyait qu'un prétexte dans le renseignement que Swann venait lui demander sur la voiture à repeindre ou la valeur à acheter, car elle ne reconstituait pas les diverses phases de ses crises qu'il traversait, et dans l'idée qu'elle s'en faisait, elle omettait d'en comprendre le mécanisme, ne croyant qu'à ce qu'elle connaissait d'avance, à la nécessaire, à l'infaillible et toujours identique terminaison. Idée incomplète, d'autant plus profonde peut-être, si on la jugeait du point de vue de Swann, qui eût sans doute trouvé qu'il était incompris d'Odette, comme un morphinomane ou un tuberculeux, persuadé qu'ils ont été arrêtés, l'un par un événement extérieur au moment où il allait se délivrer de son habitude invétérée, l'autre par une indisposition accidentelle au moment où il allait être enfin rétabli, se sent incompris du médecin qui n'attache pas la même importance qu'eux à ses prétendues contingences, simple déguisement selon lui revêtu pour devenir sensible à ses malades par le vice et l'état morbide qui en réalité n'ont pas cessé de peser incurablement sur eux tandis qu'ils berçaient des rêves de sagesse ou de guérison. Et de fait, l'amour de Swann en était arrivé à ce degré où le médecin et dans certaines affections le chirurgien le plus audacieux, se demande si priver un malade de son vice ou lui ôter son mal est encore raisonnable ou même possible.